Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux à...
CJMD 96.9 Lévis. La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin,
courtier immobilier. Et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Hey, salut Kevin, j'aimerais ça que tu puisses me parler de comment qu'on peut faire pour reconnaître les opportunités d'affaires.
Yes, donc quand on a un actif immobilier ou on prospecte sur le marché, eh bien, on doit être en mesure de reconnaître où est-ce qu'il y a un potentiel inexploité pour générer un gain de valeur dans certains projets d'investissement immobilier.
Parce que tout ça n'est pas sur la fiche centriste.
Non, malheureusement, ça sera pas nécessairement. Ça serait trop beau que on nous dise déjà, hey, voici la liste de tout le potentiel inexploité. Parce que souvent, c'est le courtier vendeur ou le vendeur lui-même qui savent pas qu'il y a un potentiel inexploité. Donc, c'est vraiment être capable de les reconnaître parce que il y a beaucoup de transactions qui, en fait, il y a beaucoup de listings qui sont sur le marché actuellement où est-ce que ils peuvent être là depuis un an, deux ans, mais en réalité, il y a vraiment un potentiel inexploité et on va survoler rapidement les différents types de potentiel, en fait, qu'on peut voir. Donc, la première des choses, on a, est-ce qu'il y a des logements à subdiviser pour maximiser les revenus? Donc, par exemple, vous êtes dans une grille d'usage qui permet 8 unités et vous avez un immeuble de 6 unités. Et il y a certains logements qui pourraient être subdivisés. Donc, par exemple, on voit souvent ça sur des immeubles où est-ce qu'ils ont des unités de 6,5, même des 7,5, même des 5,5, des grosses unités, beaucoup de superficie, peuvent être subdivisées en deux. Évidemment, là, faut qu'on s'assure que le zonage va le permettre. Donc, c'est pas parce qu'il permet en nombre d'unités qu'il permet après ça en superficie. Tu as souvent des ratios, en fait, d'unités par rapport aux superficies du lot qui est à respecter. Mais ça peut être un potentiel inexploité sur un immeuble. Ensuite de ça, on a quand on parle de logements à subdiviser, ça peut être pas nécessairement juste pour maximiser les revenus, mais ça peut être, parfois, on le voit sur des 4 logements, où est-ce que on va venir simplement subdiviser un logement pour rendre l'immeuble comme un 5 logements ou un 6 logements pour qu'il devienne admissible au financement SCHL au niveau commercial. Donc là, ça devient super intéressant parce que on vient maximiser le financement juste en rajoutant une unité. Et si on a le temps avant la fin de la capsule, eh bien, j'ai justement une petite anecdote sur ça. Ensuite de ça, on a les conversions. Donc, j'allais être un bâtiment qui est principalement utilisé pour du commercial. Le zonage permet de faire du résidentiel. Donc, étant donné que le multilogement, le résidentiel, va offrir des conditions de financement meilleures là, en termes de ratio prévaleur, d'amortissement et tout ça, eh bien, ça peut être intéressant d'acheter l'actif et de changer l'usage pour du multirésidentiel pour ensuite de ça maximiser le financement.
Puis dirais-tu justement qu'avec le contexte qu'on vit actuellement, c'est des optimisations qui risquent d'être de plus en plus intéressantes?
Oui, ça peut être de plus en plus intéressant, en effet, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'espace à bureau puis de commercial qui va être disponible. Oui, ça peut être intéressant de regarder le zonage et de voir est-ce que dans ce zonage-là, je peux convertir cette bâtisse-là en multirésidentiel. Ensuite de ça, on a aussi la démolition-reconstruction. Donc, j'achète pour démolir et reconstruire. Donc, ça peut être d'acheter de l'unifamilial pour démolir, reconstruire du multilogement ou du commercial. Et ça peut être la même chose aussi pour t'achètes un duplex, tu fais changer le zonage, par exemple, et tu as un lot qui est suffisamment grand pour pouvoir bâtir du multilogement dessus. Donc, évidemment, quand on parle là, de stratégie de subdivision, de reconversion, démolition, c'est toujours dans la perspective que votre zonage le permet. Et justement, ça nous amène au prochain point, le changement de zonage. Donc, on peut très bien faire des changements de zonage, donc à acheter un bâtiment dans la perspective de changer de zonage. Donc là, évidemment, ça devient de la spéculation, là, puis il y a une notion politique aussi qui rentre en ligne de compte, mais ça fait partie des types de stratégies pour maximiser, en fait, les actifs immobiliers. Ensuite de ça, on a des lots subdivisables avec un potentiel de construction. Donc, j'achète un bâtiment qui est sur un lot qui est vraiment, vraiment grand et finalement, je peux le subdiviser et pouvoir créer un autre lot à côté et venir ajouter une bâtisse sur ce lot-là. Donc, finalement, vous achetez le bâtiment souvent, dans la valeur de vente, ça arrive que le vendeur va pas nécessairement reconnaître que finalement, son lot était subdivisable et on pouvait bâtir une bâtisse de plus dessus. Donc,
ça, Kev, si tu permets, c'est où que tu vérifies ça? C'est-tu au niveau de la ville? C'est-tu finalement un architecte? C'est-tu quelqu'un qui va regarder l'implantation avec toi? C'est qui peut un peu t'aider à...
En fait, c'est ça au niveau de la ville, un inspecteur à la ville ou à l'urbaniste, ils peuvent t'aider. Sinon, vous pouvez, tu sais, juste aller lire sur les règlements de zonage. Je pense que c'est pas, tu sais, t'as pas besoin d'un doctorat pour lire un règlement de zonage.
Un bon café, mettons.
Café. Ouais. Tu sais, reconnaître, tu sais, comment qu'on lit une grille d'usage, c'est quoi les ratios qui sont à respecter, comprendre les notions de lot, de superficie. Tu sais, une fois que tu as maîtrisé ça, tu peux facilement prospecter sur le marché puis commencer à analyser.
C'est quand même assez simple parce que quand on est dans des centres comme Québec et Lévis, on a accès aux grilles d'usage, on a aussi accès à l'extrait de la matrice, on a accès aussi à des outils qui nous permettent de mesurer, qui font en sorte qu'on est capable de voir une implantation possible. Puis souvent, sur les grilles d'usage, ils vont mettre les normes minimales, ce qui veut dire qu'on va avoir des marges latérales qu'on va devoir avoir, on va avoir une superficie de zones vertes en arrière ou de bâtiments qu'on va devoir respecter, les marges avant, arrière qu'on devra respecter aussi. Puis au-delà de ça, il y a les normes aussi sur la superficie du terrain qui doit être un minimum, par exemple, de 600 mètres carrés, etc. Fait que déjà, en ayant ces informations-là, on peut voir, puis dans des projets d'optimisation, sans dire que le terrain revient gratuitement, mais on est capable de générer une très grande valeur par le terrain parce que ça nous est arrivé à plusieurs reprises où ce qu'on a acheté, on a acheté une propriété qui avait un terrain voisin, mais la propriété, quand on l'a mis en revente, on l'a revendu le même prix qu'on l'avait acheté. Par contre, on avait un terrain vacant à côté qu'on pouvait construire, qui devient vraiment intéressant aussi.
Exactement. C'est un super bel exemple de potentiel inexploité. Et souvent, ça me fascine comment il y a vraiment beaucoup de listings qui sont sur le marché et qui ont des potentiels inexploités, mais c'est juste faut savoir les reconnaître, faut savoir les analyser. Puis oui, maîtriser la grille d'usage, maîtriser le règlement de zonage est vraiment important.
Puis les villes sont généreuses quand même. En tout cas, peut-être ça peut dépendre des endroits puis sur quel intervenant on tombe. Mais moi, pour les quelques fois où j'ai communiqué avec la Ville de Lévis ici ou Québec, tu sais, les gens en urbanisme sont très, très, très disponibles. J'en ai un projet justement dernièrement où on avait une portion de terrain où on voyait bien qu'il y avait quelque chose de potentiel à construire. On se présente directement à la Ville, on nous reçoit. bon, c'est un peu plus compliqué de ce temps-ci, il faut prendre un rendez-vous pour se présenter, mais quand même, l'intervenant a pris une bonne heure et demie avec nous pour nous expliquer toutes les tenants aboutissants, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le projet. Puis, tu sais, évidemment, c'est des services gratuits au niveau de la ville. Fait que, tu sais, pour les investisseurs qui nous écoutent, ayez pas peur, justement, d'utiliser ces services-là, puis de les appeler aussi pour être capable de bien lire puis bien décrypter les grilles de zonage si vous êtes moins habitué.
Exactement. La ville est là. Les inspecteurs, les urbanistes sont là pour vous aider. Et comme tu dis, c'est gratuit. Donc, voilà. Donc, non, c'est, vous avez vraiment toutes les ressources alentour de vous pour vous-même vous éduquer et trouver l'information que vous avez de besoin. Ensuite de ça, si on sort un peu de la partie plus zonage, grille d'usage, donc on va rentrer plus dans les revenus. Donc, est-ce que l'actif a des revenus qui sont non optimisés? Donc, comment est-ce qu'on optimise? Rapidement, là, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais tu sais, on offre des services, on rénove, on peut juste reniper un appartement. Donc, c'est des manières de venir justifier une valeur locative plus élevée. Ensuite de ça, les dépenses non optimisées. Donc, est-ce que le type de système d'énergie est adéquat? Est-ce que finalement l'énergie, on ne le remet pas à la charge du locataire? Donc évidemment, on est soumis aussi à la réglementation de la régie du logement. Là. Vous pouvez pas faire ça comme bon vous semble. Et on a aussi l'assurance. Donc c'est drôle à dire, mais dans un listing de vente, l'assurance du vendeur ne sera pas nécessairement votre assurance. Donc vous pouvez, juste en changeant la franchise, si vous avez vous-même un beaucoup de volume avec un assureur, mais vous pouvez aller chercher des primes d'assurance qui sont bien moins chères. Et puisque la valeur en immobilier commercial, en multilogement, c'est une question de revenu-dépense, là. Donc le revenu net, vous pouvez l'augmenter juste en réduisant drastiquement votre prime d'assurance. Toujours une perspective que vous augmentez pas votre risque non plus, là, parce que si vous avez un sinistre, ça peut vous coûter beaucoup plus cher que l'économie de primes que vous avez faite. Donc ça, c'est toujours à garder en tête. Et en dernier lieu, eh bien, reconnaître les opportunités fit aussi avec votre capacité de financement. Donc, d'adapter qu'est-ce que je suis capable de faire en ce moment en termes de capacité financière, d'analyser ces opportunités-là en fonction de ça. Parce que c'est bien beau de voir qu'il y a un terrain subdivisable puis on peut faire de la construction. Mais si vous n'avez pas la force financière pour développer, ben c'est sûr que ça serait de vous tourner vers des opportunités que vous pouvez faire.
C'est vraiment intéressant. Écoute, on n'a que des petites capsules parce qu'on en a 24 principes de base en investissement immobilier. Si on veut avoir plus d'informations, Kevin, on peut communiquer avec toi. De quelle façon?
KPMaffaires.com. Donc, on a une plateforme de formation professionnelle qui produit un studio de tournage. C'est fait par des professeurs universitaires, des professionnels chevronnés de l'industrie. Et on est d'ailleurs accrédité par l'OACQ pour tous les professionnels qui doivent faire des UFC dans le domaine.
Merci, Kevin. Passe une belle journée.
Merci.
CJMD 96.9.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
Vous pensez vendre ou acheter une propriété? Faites comme tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis ben, c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus, ça a été fait comme tu nous l'avais dit, dans le délai et pour le prix. Au plaisir!
Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois-ci, j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eues, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même façon que si c'était une maison à 500 000. Bravo à l'équipe et merci pour la vente rapide.
Jean-François, merci pour la belle bouteille de champagne. On va trinquer à ta santé. Un gros merci pour la vente puis on va savoir qui nommer si quelqu'un cherche un courtier. On savait depuis le début à qui faire confiance puis ça a été un gros succès. Merci.
On tient à te remercier, Jean-François, pour nous avoir accompagnés dans l'achat de notre condo. On n'aura aucune misère à te référer auprès de nos amis et de nos connaissances. Merci infiniment pour ton professionnalisme.
Comme tous ses clients, faites affaire avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Pour avoir des résultats et maximiser la vente ou l'achat de votre propriété, une seule équipe. Jean-François Morin, courtier immobilier.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrancoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
Hey Marcus, on fait un jeu, OK?
Hey, wow, du gros fun!
On joue à... dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y.
Ben déjà, en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
Ouais, c'est vrai, il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec.
Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets.
Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 418-681-2522. GroupeDBL.com.
Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 $? Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la Capitale Assurance Générale. 418-839-4242. 839-4242.
Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou un garage, Item saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com.
L'École de moto Centre-Ville recrute.
Vous êtes passionné de la moto et vous avez toujours eu envie de transmettre votre passion, c'est le moment. L'École de moto Centre-Ville est à la recherche de gens qui veulent travailler dans un environnement sain et amusant. Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique et professionnelle de moniteurs, de vrais pros de la moto et vous détenez votre permis depuis plus de 2 ans? Voilà votre chance. Temps partiel, temps plein demandé, avec ou sans expérience. L'École de moto Centre-Ville attend vos candidatures. Envoyez vos CV à www.info@commercialecolemoto.com. Ou communiquez avec eux au 418-933-6577. L'École de moto Centre-Ville recrute.
Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi, le 8 février. Pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de Val-Bélair, Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera toutes les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au 418-903-8282.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Hey.
Tous les dimanches, 3h PM, on donne 2750$ à CJMD.
Même pas 12$ pour participer.
Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section bingo. 2750$ toutes les semaines, seulement avec CJMD.
CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop.
La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Hey, salut Kevin.
Salut JF.
J'aimerais ça que tu puisses me parler un peu de l'analyse financière qu'on va en faire sur les différents projets.
Yes, donc on est rendu à notre épisode numéro 10 de nos 24 principes de base en investissement immobilier. Et là, évidemment, on arrive plus dans la partie analyse financière de projet. Donc, on a vraiment passé, profil d'investisseur, qu'est-ce qu'on achète, les mythes, le partenariat, les stratégies. Et là, on arrive vraiment dans le bout du cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier à analyser le projet. Et comment est-ce qu'on l'analyse? Qu'est-ce qu'on choisit comme métrique de succès pour prendre une décision d'investissement? Parce qu'avant tout, on achète de la brique, du béton, tout ça, mais ça devient que c'est un projet d'investissement. Et dans l'analyse financière d'un projet, c'est avant tout d'avoir un modèle d'analyse prévisionnel qui tient compte de plusieurs variables dans le temps. Parce que c'est pas vrai que quand un modèle, quand tu fais de l'analyse prévisionnelle, que tes prévisions, c'est exactement ça qui va se passer, là. Tu peux prévoir, par exemple, de la vacance, mais en réalité, t'en as pas. Cependant, t'avais pas prévu qu'il fallait que tu répares une partie structurelle du bâtiment et finalement, il faut que tu le fasses. Donc, c'est d'avoir, moi, ce que j'appelle un modèle de toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, c'est pas parce que tu mets c'est pas parce que tu as un bâtiment neuf, tu le sais que tu n'auras pas de vacances, qu'il faut pas que dans tes prévisions, tu ne mettes pas de vacances. Pourquoi? Parce que tu veux un modèle qui va tenir compte de plusieurs variables, que si une d'entre elles se produit ou que l'autre ne se produit pas, ben il va y avoir un balancier qui va se faire.
OK, parfait. Puis tout ce qui est d'analyse prévisionnelle ou analyse financière qu'on va en faire, on se fait un chiffrier Excel, on prend le cruncher du club, de quelle façon qu'on va être en mesure d'avoir des bonnes métriques pour pouvoir faire une bonne analyse. Parce que, tu sais, on va le prévoir dans le temps aussi, l'analyse. C'est pas juste de voir revenu-dépenses aujourd'hui, est-ce que c'est un bon investissement, mais il faut le prévoir dans le temps.
Exactement. En fait, moi, ce que je suggère, puis on l'a d'ailleurs sur la plateforme Copé Formation d'affaires, ça a été monté par des CPA spécialisés en immobilier. C'est vraiment d'y aller avec l'approche de l'ordre des CPA là, qui enseignent, en fait, jusqu'à la maîtrise à l'université. C'est une approche qui est vraiment... On fait un état des résultats prévisionnels. Dans notre état des résultats prévisionnels, on a des hypothèses, on a des variables. Suivant cet état des résultats prévisionnel. Là, on fait une conciliation fiscale. Donc, c'est quoi l'impact fiscal d'année en année des décisions qu'on prend? Donc, on a de l'amortissement, on se cumule une ballonne d'impôts. Si on dispose de l'année 5, bien, il y a un impact fiscal et tout ça à tenir compte. Parce que si dans votre cruncher, vous n'avez pas une partie fiscale, remettez en question votre cruncher, là, parce que au Québec, l'impôt, c'est une fatalité. Vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte. Et finalement, la troisième étape, c'est l'analyse des flux de trésorerie. Donc, j'ai fait mon analyse, mon état des résultats prévisionnels. J'ai inclus ma partie impôt, ma partie fiscalité. Et à la fin de tout ça, c'est quoi la variation de mes flux de trésorerie opérationnels, mes refinancements à ma disposition. Et à partir de ça, là, on a vraiment de la ce qu'on appelle la matière brute pour pouvoir travailler notre rendement.
Oui, entre autres, surtout beaucoup au niveau de l'optimisation. C'est parce qu'il va savoir, ça va demander énormément de cash.
Énormément, fait l'optimisation,
c'est très important. Sur un an... Peut-être que ça balance, mais ça se peut-tu qu'au mois 4, à un moment donné, ça va stretcher ou il va en manquer quelque part? Là?
Exactement. Puis l'analyse prévisionnelle, en fait, elle peut se faire sur des années, mais elle peut se faire, comme tu dis, au mois le mois. Surtout dans un projet d'optimisation, eh bien là, on va venir même rajouter un outil supplémentaire qui est le budget de caisse, qui est une analyse des flux de trésorerie prévisionnelle. Pourquoi? Parce que dans un projet de rénovation, ça nécessite encore plus de capital, en fait, à sortir pour pouvoir rénover. Et on a tous les frais aussi qui entourent non seulement le projet d'optimisation, mais aussi la transaction. C'est la taxe de mutation, les frais d'inspection, l'évaluation, le notaire, les frais de courtage. Et là, j'en passe, là, mais il y a tous ces frais-là qui sont à tenir compte. Et quand on veut vraiment avoir une vue claire sur les variations de trésorerie qui sont à venir, il faut avoir un budget de caisse. Et encore plus dans un projet de rénovation-construction.
Puis dans l'analyse financière, là, on arrive toujours aussi, puis peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, mais quand on arrive à faire des travaux, de quelle façon qu'on est capable de budgéter nos travaux par rapport à ça, à part d'avoir une règle de pouce puis de dire, ben écoute, nous, on va prévoir 35 000 par logement, puis tu sais, on se croise les doigts pour que ça marche. Hein?
Ouais, c'est ça. Bon, se croiser les doigts, malheureusement, c'est ça. C'est pas la meilleure stratégie. En fait, tu sais, soit que vous basez sur des données historiques que vous avez déjà. Si vous avez pas déjà les données historiques, eh bien là, on en a parlé dans un épisode précédent, mais c'est d'avoir dans ton dream team un entrepreneur en qui que t'as déjà, tu peux communiquer rapidement puis avoir de l'information. Ou sinon, c'est d'y aller selon soit un modèle en pied carré, un prix par porte, c'est-à-dire, mettons, un 3,5 de temps de superficie en pied carré pour tel type de qualité de rénovation que je veux faire, ça devrait me coûter à peu près tant. Ou bien je peux y aller par porte aussi. Ou c'est d'y aller, et ça sera dans une capsule plus tard qu'on va en parler, mais dans le fond, c'est quoi le modèle mathématique que je pourrais utiliser en analyse de projet pour me dire combien que j'ai finalement? C'est d'aller une approche plus budgétaire, une approche aussi par rendement. C'est quoi le rendement que je cherche? Et à partir de ce rendement-là, qui tient compte du risque, qu'est-ce qui me reste en termes de budget quand que je vais refinancer ou disposer pour pouvoir rénover?
Fait que tu veux dire, ne pas nécessairement dire, je veux faire ça comme réno, est-ce que je peux louer tant, mais plutôt, j'ai ça comme cible de location, je vais pouvoir en tirer tel financement.
Exactement.
Qu'est-ce que j'ai comme budget finalement de réno, puis essayer de tenir ce budget-là.
On part par le résultat qu'on veut, et à partir du résultat qu'on veut, on descend vraiment vers qu'est-ce qui me reste à la toute fin.
Puis c'est drôle que tu parles de ça, parce que nous, on le fait à l'interne dans le courtage immobilier pour savoir combien de transactions qu'on va devoir faire dans une année. On a un objectif global. On va avoir besoin d'une rétribution moyenne. Après ça, combien de transactions qu'on va avoir, combien de rencontres clients, combien de personnes contactées, combien de leads qu'on va avoir de besoin, puis combien de leads total, parce qu'il y en a qu'on va avoir rejoint, d'autres non. Puis avec ça, puis on fait du reverse engineering, là, tu sais, dans le fond, qu'on veut savoir c'est quoi les chiffres qu'ils vont nous donner. Puis avec ça, ben, on arrive avec des métriques beaucoup plus précises.
Exactement.
Parce que si tu as un loyer de 600 que tu peux augmenter à 1 000 $ par mois, ben le 400 $ ben va te permettre d'avoir une certaine valeur. Mais avec cette valeur-là, moins tes frais d'opération ou tes frais de rénovation, ben il va te rester un résiduel qu'il faut que tu gardes. Puis ça, c'est important de le contrôler et de le comprendre.
C'est excellent l'exemple que tu as donné, Jeff. En fait, c'est exactement la méthode. Tu pars de ce que tu veux atteindre comme valeur, puis après ça, tu descends jusqu'à la fin au résiduel. Fait que finalement, c'est plus juste tu regardes un appartement et tu disais, ce serait beau de changer la cuisine. C'est non, qu'est-ce que j'ai comme budget selon le rendement que je veux atteindre, la valeur que je veux atteindre, qu'est-ce que j'ai? Puis est-ce que ça fit? Est-ce que le projet est souhaitable? Est-ce qu'il est réalisable? Et si la réponse est oui, ben là, à ce moment-là, c'est de décider est-ce que je fais le projet d'investissement ou non. Puis si la réponse est non, mais c'est de regarder d'autres dimensions de la stratégie d'optimisation. Puis s'il n'y a aucune qui fit, ben c'est pas le bon projet.
Oui, parce qu'on s'entend que rénover 4,5, il y a 10 façons de le faire. Ou il y en a même 20. Tu sais, je veux dire, les gens vont se dire des fois, je le rénove ou je le rénove pas. Mais dans les faits, il y a plusieurs cibles de prix de location qu'on peut avoir, puis différents niveaux de rénovation. Fait que c'est de trouver son sweet spot là-dedans. Par rapport, entre autres, encore une fois, du marché locatif, qu'est-ce qu'on peut cibler à la fin et non rénover, investir, puis dire, c'est-tu quoi, avec ce que je viens de mettre, faudrait-je louer 1 200?
Mais non, c'est ça.
Le marché ne te reçoit pas pantoute.
Exactement ça. C'est de partir aussi parce que la demande va être prête de prendre. Puis c'est aussi de savoir, si je rajoute 5 000, de combien je dois augmenter ma valeur locative pour venir financer ce 5 000-là, mais aussi créer un gain d'équité. C'est ça l'objectif.
C'est ça l'objectif. Puis si jamais on veut se faire former ou on veut avoir de l'information sur différentes analyses financières, est-ce que vous donnez des formations?
Ben tout à fait. On a un module sur notre plateforme Copy Formation d'affaires qui traite en détail des méthodes d'analyse, des exercices, des études de cas. Donc, c'est extrêmement complet. Et évidemment, ça a été monté par professeurs universitaires et professionnels dans le domaine.
Hey, merci Kevin. Écoute, on se revoit sur une prochaine capsule.
Merci.
Avec Copy Formation d'affaires.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de Copy Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kbmaffaires.com.
Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications, puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial. Mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait leur achat avec l'équipe de Jean-François Morin, qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnelle.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolida.
Le Fonds Écolidaire, c'est une aide financière non remboursable pour les entreprises qui souhaitent adopter des pratiques éco-responsables ou des technologies propres. Vous êtes prêt à passer à l'action? Vous pourriez obtenir jusqu'à 50% des dépenses admissibles si vous réalisez votre projet avec l'aide d'un consultant. Contactez-moi dès maintenant pour identifier des pratiques adaptées à votre réalité, obtenir un soutien dans la recherche de financement ou trouver un consultant. Josiane Fortin, 418-222-9496.
Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec.
Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets.
Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 418-681-2522.
GroupeDBL.com.
Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
Salut, c'est Chico. En fin de semaine, la soif m'a pogné et j'ai découvert les produits de la Baleine en Diablé. Étant amateur de bière, je peux vous garantir qu'il y en a pour tous les goûts. Des blondes, des rousses, des sûres, oh oui, par là! Leur microbrasserie est située à Rivière-Ouelle, mais ils ont plus d'une vingtaine de points de vente à Lévis et Québec. Cherche pas plus longtemps, la prochaine fois que tu te demandes quelle microbrasserie encourager, je te jure, tu seras pas déçu avec tout ce que la Baleine en Diablé offre. Visite baleineendiablé.com pour plus d'informations.
Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 $? Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la Capitale Assurance Générale. 418-839-4242. 839-4242.
Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi, le 8 février. Pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de Val-Bélair, Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au 418-903-8282.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Hey!
Je vous garantis, là, je mets ma prochaine paye, là, ça gagne pas Occupation Double 2020.
Arrête d'en trouver.
Bon, OK.
C'est les truands!
Hey, ça, c'est gros, gang. On fait tirer le cachet. Le cachet que je donne pour chaque chronique à Richard, on les cumule. Si jamais il se trompe, je vous le donne, gang.
OK, parfait, c'est un deal. Vous m'avez écouté, bon, OK. Je vous dis, je gage à moitié de mes cachets qu'elle ne pognera pas un dos non plus, OK? Parce qu'elle n'est déjà pas dans les top de personnes, puis c'est évident.
Laurent et les truands!
C'est du monde, dans la production, qui ont dit cette année, on traîne une coulotte qu'on remet dans le top.
Laurent et les truands, du lundi au jeudi, dès midi.
96.9. CJMD, le 96.9 à Lévis.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Salut Kevin.
Salut JF.
Écoute, on a parlé d'analyse financière de projet, etc., mais on n'a pas parlé de métrique de rendement.
Yes, épisode numéro 11. Donc, dernier épisode numéro 10, on a les 24 principes d'investissement en investissement immobilier. Et oui, effectivement, dans la dernière capsule, on a manqué un peu de temps pour parler des métriques de rendement. Donc, on analyse notre projet, on a fait notre analyse prévisionnelle, on a fait notre budget de caisse, on a tout pris en compte les variations de liquidité. Maintenant, sur quelles métriques qu'on se base pour prendre une décision d'investissement? Et là, c'est drôle qu'on parlait de métriques parce que tout le monde est habitué de connaître le ROI, retour sur investissement. Hein, c'est super de base à calculer. Mais ultimement, c'est pas nécessairement la meilleure métrique. Et c'est de comprendre aussi chacune des métriques, qu'est-ce qu'elles signifient. Et surtout, je dis bien surtout, avec le partenaire qu'on est, si on a un partenaire financier, lui, c'est quoi la métrique qui est importante? Parce que ultimement, si admettons, on va parler de la métrique du taux de rendement interne, tu tiens compte de la valeur temporelle de l'argent puis de la composition du rendement, peut-être que pour un partenaire, tu vas lui dire ça, puis il va comme faire un gros what the fuck, c'est quoi cette métrique-là, je la comprends pas, là tu me perds, je m'en vais. Ouais. Et peut-être que pour lui, en réalité, on devrait plus parler en ROI, et là, tout devient simple, tout devient clair. La seule problématique, c'est qu'on va prendre un projet, on va appliquer les trois métriques, puis on va avoir trois rendements différents. Ouais. Alors là, ça devient encore plus mélangeant, on se dit, OK, mais là, laquelle que j'utilise? Et c'est là que c'est important de bien les comprendre, et on va les passer rapidement à chacune d'elles. Donc, la première, c'est le ROI. Le ROI, le retour sur investissement. Donc, combien est-ce que m'a généré de profit, de bénéfice mon projet divisé par mon investissement initial? C'est très simple. Et en investissement immobilier, je veux dire, tu prends juste ton bénéfice annuel, là, tu peux même venir rajouter ton gain de valeur marchand que tu as eu et tu peux venir le calculer sur l'investissement que tu as fait ou le résiduel de l'investissement que tu as. Donc, si à chaque année, tu te rembourses une partie de ton investissement, eh bien là, c'est sûr que ça vient booster tout le temps plus ton ROI parce que ton dénominateur qui est ton investissement, le solde résiduel, eh bien, il diminue.
Il y a toujours une notion de temps, évidemment, là-dedans.
Il y a toujours une notion de temps là-dedans. La seule problématique avec le ROI, c'est que justement, si tu as tout remboursé ton capital de départ, qu'est-ce qui arrive si ton dénominateur il devient zéro?
Infini.
Infini. Donc, le ROI ne se calcule plus. Là, c'est comme si tu as fait infini rendement, en fait, parce que t'as plus, la formule ne marche juste plus et ça ne tient pas compte de la valeur temporelle de l'argent. Donc, le ROI est une métrique à utiliser, mais qu'il faut faire vraiment bien attention.
Ici, par exemple, on revient à notre exemple, on a un 6 logements à 600 000, on a mis 25% de mise de fonds à 150 000 de mise de fonds. On fait des projets de réno, on a mis pour, par exemple, 100 000 de réno, qui fait en sorte que notre coût d'acquisition de l'immeuble, sans compter notaire, frais, taxes de bienvenue, etc., grosso modo, on est à 700, 750 000, par exemple, de coût d'acquisition sur la propriété. On a une nouvelle valeur économique de 900 000. Puis on va refinancer SCHL à 85% qui va rester 765 000 de financement. Mais tu sais, il y a un rendement entre notre mise de fonds qui va avoir été donnée. Il va avoir un rendement qui va avoir été... ben tu sais, nos réno vont avoir été payés aussi avec le refinancement. Puis il y a un surplus qui va donner. Fait que là, c'est là que tu dis qu'un coup que tu as tout payé, ben ton rendement devient infini. Puis c'est là qu'on n'est pas en mesure d'avoir une métrique juste.
Exactement. Donc là, le ROI a ses limites. En fait, pourquoi que le ROI est aussi populaire, c'est à cause de sa simplicité.
Ouais, c'est le premier réflexe que les gens ont. Mais dans l'exemple que tu donnes, Jeff, c'est une bonne métrique pour voir si ce processus d'optimisation-là était bon.
Ouais.
Mais comme tu dis, Kevin, après ça, sur le reste de l'opération de l'immeuble, ça prend d'autres métrique parce que là, l'infini, à un moment donné, c'est...
L'infini, c'est ça. Ça devient plus une métrique vraiment financière et ultimement, on va voir que plus qu'on va peaufiner, en fait, la métrique qu'on va utiliser, plus que le rendement va diminuer. En fait, il va y avoir une impression, le chiffre là, à la fin, là, surtout qu'on va arriver au taux de rendement interne. Finalement, le ROI, je donne un exemple, va nous donner 40% d'ROI sur une année, tandis que le TRI va nous donner 2%. Donc là, c'est des extrêmes totales, mais ultimement, faut comprendre c'est comment qui est calculé, comment est-ce que la métrique est calculée derrière. Après le ROI, on peut regarder le délai de récupération. En fait, je préférais quasiment utiliser le délai de récupération que le ROI parce que c'est plus juste une question de pourcentage, ça devient une question de en combien de temps je récupère mon capital investi. Et il faut pas oublier qu'une fois que le capital investi est récupéré, ben l'actif, on l'a toujours. Là. Donc, continue de générer de la trésorerie, de prendre la valeur et tout ça, si on s'en occupe bien. Donc, le délai de récupération devient une métrique intéressante. Et même, je dirais que pour avoir vraiment travaillé avec plusieurs partenaires financiers, autant non sophistiqués que sophistiqués, ça devient quasiment la métrique.
Ouais, pour comme on dit, pas sortir du deal, mais récupérer son investissement initial.
En combien de temps je récupère mon investissement? Exactement.
Mais quand tu as ça comme cible, est-ce que tu vas au plein potentiel de l'optimisation ou tu essaies plutôt de diminuer ton délai de récupération puis tu te dis j'aurai une deuxième phase où je vais aller vraiment presser le citron au maximum?
Effectivement, puis oui, le délai de récupération, on peut l'analyser comme en pourcentage de comment ce qui me reste là en résiduel. Mais pourquoi qu'on va venir favoriser le délai de récupération? Puis souvent, pour des partenaires financiers, ça va être une métrique de base sans comprendre pourquoi. C'est qu'en réalité, quand on va arriver à l'analyse du taux de rendement interne, finalement, si j'ai plus d'encaissement qui est proche de mon décaissement, là, d'un point de vue valeur temporelle de l'argent, là, mon temps zéro, lequel que je décaisse, j'investis, et que je rapproche le plus possible des gros montants au temps zéro, c'est-à-dire temps 1, temps 2, temps 3, on est en année, eh bien, ça va favoriser mon taux de rendement interne. Donc, veux pas, le délai de récupération est vraiment une bonne métrique pour calculer son rendement, si on peut dire, là.
Puis d'autant plus, on a des partenaires comme un prêteur privé, parce que là, il y a une notion de temps souvent qui joue
exactement
sur ta valeur de l'argent qui coûte toujours de plus en plus cher aussi.
Coûte toujours de plus en plus cher, effectivement. Ensuite de ça, on a le RO, le retour sur équité, return on equity. Donc là, ce qu'on vient plus analyser, c'est quelle est la valeur nette actuellement du projet et combien est-ce qu'il y a de bénéfices qui est généré à chaque année sur cette valeur nette-là. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut modéliser selon différentes variables de financement combien est-ce que un projet va générer en cash, en capitalisation et en gain de valeur. Donc là, on peut modéliser de l'équité. Fait qu'on peut venir dire, si j'ai un portefeuille d'investissement immobilier qui est à 1 million $, ben ce million-là de dollars, est-ce qu'il génère 50 000 de cash flow ou il génère 150 000 de cash flow? Ça devient super intéressant parce que tu peux vraiment planifier à partir de là et dire, OK, je veux faire de l'investissement immobilier. La plupart des gens, ils veulent se générer un revenu passif, atteindre une indépendance financière. Là, donc, ça peut être un véhicule de placement à utiliser. Eh bien, ils vont dire, ben moi, pour être indépendant financièrement, j'ai besoin de 100 000 de revenus passifs annuels. Là, tu te dis, parfait, 100 000 de revenus passifs annuels, combien est-ce que ça me prend d'équité? Combien ça me prend de valeur nette immobilière et de quel type d'actif sous-jacent? Comment est-ce qu'il doit être financé? Mais est-ce que j'achète un 6 use? Est-ce que j'achète un 6 neuf? Est-ce que je l'achète à tant de taux global d'actualisation? Donc, tout ça, on peut le modéliser puis utiliser le ROE pour faire ça. Donc, ça devient vraiment intéressant pour faire de la planification financière d'utiliser la métrique du ROE. Et ensuite, finalement, la dernière métrique, malgré qu'il y en aurait d'autres, là, il y a plein de variantes de métriques qu'on peut utiliser. Donc, on les passe très rapidement. C'est le taux de rendement interne. Donc, le taux de rendement interne, lui, va vraiment se concentrer principalement sur les variations de cash flow. Donc, lui se fout en quelque sorte de comment est-ce que je capitalise, de comment est-ce que je prends de gain de valeur. Lui s'intéresse seulement à, OK, mais quand que cette équité-là, cette partie-là illiquide va devenir liquide.
Ça se matérialise.
Ça se matérialise. Outre ça, le taux de rendement interne ne prend pas en compte les parties illiquides. Donc, ça devient intéressant parce que là, on analyse vraiment notre projet d'investissement d'un point de vue de variation liquide, cash flow.
Excellent. Fait que c'est quand on passe à la caisse, essentiellement par un refinancement, la plupart du temps, finalement.
Un refinancement, une vente, flux de trésorerie d'opération. Et c'est là que ça devient intéressant parfois parce que tu vas analyser ton portefeuille puis tu vas dire, hey, finalement, là, je serais mieux de le vendre, de le mettre en vente dans la prochaine année, quitte à le vendre moins cher que sa valeur marchande pour encaisser tout de suite mon équité, ne pas prendre le risque potentiel du temps à venir parce que, le risque du temps peut autant être un coût dans le sens que tu peux renoncer à un gain subséquent ou à un risque que le gain ne se réalise pas. Donc, il y a cette notion-là de valeur temporelle de l'argent, de risque, mais de se dire finalement, est-ce que je serais pas mieux de le vendre tout de suite, d'encaisser tout de suite, puis de passer à un autre projet et de passer à un plus gros projet.
Cool, très cool. Puis comment, justement, ça vient un peu se combiner avec la vanne? Souvent, les gens se questionnent un peu le tri versus la vanne. Qu'est-ce que je dois regarder? Puis comment les deux viennent?
Exact. Ben, en fait, le tri, ça vient simplement dire jusqu'à combien je peux actualiser mes flux monétaires dans le futur, jusqu'à combien je peux les actualiser pour que ce soit équivalent à mon investissement au temps zéro. Et ça, d'ailleurs, si vous venez sur notre plateforme, on a un professeur universitaire spécialisé en ingénierie financière qui a fait littéralement un cours de plus de 3 heures sur les métriques de rendement à utiliser dans un projet d'investissement. C'est extrêmement bien fait, très pédagogique et tout est expliqué en détail. Et même, on aborde des variantes de ces métriques-là.
Quand même super cool. Si on veut avoir plus d'informations sur KP Formation d'affaires, on va à quel endroit?
KPMaffaires.com. Venez nous retrouver là. Donc, on a plusieurs modules qui parlent de tous ces éléments-là.
Parfait. Merci beaucoup, Kevin.
Merci, Kevin.
Merci.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat, que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui, eux aussi, ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe et nous nous sommes vite aperçus qu'ils étaient très différents de ce que nous avions l'habitude de voir. Ils proposent un service professionnel, une expérience extraordinaire et on voit que leur marketing vend et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 % du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
Vous le savez, vos Rôtisseries Refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtisseries Refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents. Brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les Rôtisseries Refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111, Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. Commande web et promotion disponible au www.rotisseriefusée.com.
Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolidar. Le Fonds Écolidar, c'est une aide financière non remboursable pour les entreprises qui souhaitent adopter des pratiques éco-responsables ou des technologies propres. Vous êtes prêt à passer à l'action? Vous pourriez obtenir jusqu'à 50% des dépenses admissibles si vous réalisez votre projet avec l'aide d'un consultant. Contactez-moi dès maintenant pour identifier des pratiques adaptées à votre réalité, obtenir un soutien dans la recherche de financement ou trouver un consultant. Josiane Fortin, 418-222-9496.
Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 $? Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la Capitale Assurance Générale. 88-839-4242. 839-4242.
Capable de rester enfermé, la larme à l'œil, à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attend. Membre de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec, nous organisons des activités légales et qui respectent les recommandations. Deviens membre gratuitement pour 2021 via la page Facebook ou sur le www.clubjeepquebec.com. Club Jeep Québec, là où les routes se terminent, notre plaisir commence.
Tout le monde sait que lorsqu'il est question de parler d'immobilier, ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la Bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La Bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h.
À CJMD 96.9, l'Alternative Radio. La Bulle immobilière au 96.9, l'Alternative Radio.
Salut Kevin.
Salut JF, ça va bien?
Ça va super bien. Écoute, dans la précédente capsule, on avait parlé des métriques de rendement, mais c'est pas juste ça, des métriques de rendement.
Non, parce que là, une fois qu'on a analysé le projet, bien évidemment, il faut aussi prendre en compte la composante de la stratégie de financement. Bon, évidemment, l'analyse prévisionnelle, les rendements vont être en grosse partie fonction de notre stratégie de financement parce que ça va venir impacter la variation de trésorerie du projet. Donc, on va parler dans cet épisode-là, parce qu'on est toujours dans nos 24 épisodes sur les principes de base dans l'investissement immobilier, on va parler des stratégies de financement pour les bâtiments existants. Donc, on va faire un autre épisode sur du neuf, mais là, on va parler des stratégies de financement bâtiments existants. Donc, quelle stratégie qu'on utilise dépendamment du projet et de notre stratégie d'optimisation? Il y a beaucoup de stratégies, là, de mon stratégie ouais, dans tout
c'est
ça.
C'est stratégique, tout ça.
C'est stratégique, exactement. Donc, évidemment, on est habitué de savoir qu'il y a deux types de financement, conventionnel versus un prêt assuré par la SCHL. Mais là, on va se poser la question sur est-ce que on utilise plus du conventionnel, on utilise plus un prêt assuré SCHL. En fait, il n'y a pas de réponse magique, c'est ça dépend du contexte dans lequel on est.
Puis là, on regarde un projet au niveau existant.
On regarde vraiment un projet existant. On va faire fi vraiment d'un immeuble neuf parce que ça sera pas, on va pas l'analyser de la même manière.
Prochaine chronique.
Donc, un financement conventionnel, c'est quoi? Ben, c'est un prêteur traditionnel qui ne fait pas assurer son prêt par un assureur qui, dans notre cas, qu'on connaît tous, la SCHL. Et ce prêteur-là, en fait, va avoir des ratios de financement qui vont être plus bas, donc qui vont être moins agressifs en termes de taux d'intérêt, de ratio prêt-valeur, d'amortissement, qu'un prêt assuré. Donc, autrement dit, le prêt va coûter plus cher. On va avoir un plus gros intérêt et il va nous demander aussi de mettre plus de mise de fonds. Mais pourquoi on choisirait un financement conventionnel versus assuré SCHL si le financement assuré par la SCHL nous exigerait moins de mise de fonds et nous coûterait moins cher? C'est simple, c'est les conditions. Donc, les conditions, ça va être principalement sur le terme. Donc, est-ce que je peux aller chercher un terme de, à la limite, 6 mois, 1 an? Et surtout, est-ce que je peux refinancer rapidement? Donc, dans un type de financement plus conventionnel, on va aborder plus la notion de vélocité, la rapidité à laquelle on peut bouger notre financement. Et c'est là que le financement conventionnel devient intéressant.
Puis à ça se rajoute évidemment la prime aussi qui vient faire la différence entre le prêt assuré versus le prêt conventionnel.
Exactement, on n'a pas de prime, mais il faut faire attention aussi avec la prime parce que quand on aborde du financement pour un projet d'investissement immobilier, il faut vraiment l'aborder d'un point de vue financier, investissement, et non d'un point de vue consommateur parce que ça va peut-être déplaire l'audience qui écoute, mais tu sais, on n'analyse pas la prime SCHL de la même manière entre un multilogement qu'une maison. Parce que dans le cas d'un investissement immobilier, ben la prime SCHL, en analyse prévisionnelle, là, quand on a parlé de notre épisode justement sur faire une analyse d'état des résultats, faire une conciliation fiscale et flux de trésorerie, ben dans la partie conciliation fiscale, là, la prime SCHL, elle devient vraiment intéressante. Parce que finalement, tu réalises que tu sauves probablement de l'impôt juste par la prime qui est amortissable sur 5 ans au niveau fiscal.
C'est un outil aussi.
C'est un outil et faut vraiment la comprendre faut comprendre la complexité de l'outil dans son ensemble pour vraiment comprendre que finalement la prime, tu sais, c'est oui, ça se rajoute à notre prêt, on la paye, mais ultimement, elle a des avantages.
Mais c'est une barrière psychologique à passer pour beaucoup de gens, tout comme de juste cibler le taux dans un prêt, là.
Exactement ça. Juste le taux, c'est ça. Faut regarder les termes. Est-ce que je peux refinancer dans 1 an? Est-ce que, d'ailleurs, dans du financement existant, si vous avez un super de bel historique avec votre prêteur et aussi un historique en termes de réalisation de projets, nous, d'ailleurs, chez Copy Management, dans notre division investissement, ben tous nos projets d'optimisation, on les fait bridger. Là. C'est-à-dire que on peut littéralement aller voir notre prêteur dire, écoute, voici ce 6 logements-là, je vais le vider ou il est déjà vide, puis on va faire bridger la rénovation. Donc, il nous finance l'acquisition. Il nous finance après ça les rénovations. Puis après ça, il prépare déjà le take-out. Donc, le financement à long terme qu'on va venir mettre sur l'actif.
Fait que ça, comme tu dis, ça vient avec un historique. Parce que sinon, généralement, ce que les gens ont en tête, c'est de passer par un prêteur privé pour cette portion-là qui serait l'optimisation parce que c'est moins bien reçu quand c'est tes premiers dossiers en institution.
Exactement. Donc, c'est sûr que traditionnellement, on va aller conventionnel. Ils vont pas nous financer les rénovations. Il va falloir les financer nous-mêmes, soit par des marges de crédit, soit de l'équité qui est injectée par des partenaires ou soit par le prêteur lui-même qui propose le financement.
Parce que c'est en dehors de leur modèle de risque. Mais là, toi ou quelqu'un qui a un gros volume avec le prêteur va dire il est capable d'amortir ce risque-là sur tous les autres prêts, tous les autres projets, mais donc il est plus confortable à te prêter
Exactement.
L'optimisation.
Puis c'est de projet en projet, tu acquiers de l'équité, donc tu deviens, t'offres toujours une caution plus forte à ton prêteur. Donc pour lui, la notion de risque, puis t'es capable de démontrer, t'es capable d'exécuter. Hein, c'est parce que c'est beaucoup dans il y a beaucoup de risques dans l'exécution.
Un qualitatif. Donc,
exactement, qualitatif. Est-ce que je suis un bon opérateur? Est-ce que je suis capable d'exécuter le projet? Est-ce que j'en viens mon risque d'optimisation? Donc tout ça se démontre par un track record.
Fait que finalement, qu'est-ce que les gens, mettons encore là dans notre cible d'un 6 logements à 600 000, on regarde le projet, on a regardé un petit peu au niveau des métriques, on s'intéresse au projet, là, qu'est-ce qu'on devrait regarder puis comment on devrait trancher notre choix entre le financement conventionnel versus assuré au niveau de l'achat?
Ben là, dans notre exemple de 6 logements, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce 6 logements-là, on va le stripper au complet puis on va tout rénover? Si on fait ça, ben ultimement, tu veux pas aller te mettre un financement de départ que tu vas être pogné 5 ans, que tu pourras pas rien faire. Parce qu'en réalité, ce que tu veux faire, c'est que tu veux l'acheter, tu veux le rénover le plus rapidement possible, le remplir et le refinancer pour aller faire un retrait d'équité et rembourser ton investissement. Donc là, à ce moment-là, un financement conventionnel va être intéressant puisque tu vas justement cette notion-là de vélocité. Tu vas pas être rapide, tu vas pas bouger rapidement. Mais si par contre, c'est un 6 logements, que si tu le sais qu'il va y avoir du roulement dans les prochaines années, tu vas juste faire, tu vas implanter des services, que tu sais, tu n'as pas nécessairement le capital non plus à investir pour pouvoir te stripper, ben finalement, un financement assuré par la CHL va être bien plus intéressant. Moi, c'est ce que j'appelle une stratégie qui est un petit peu plus bateau de croisière. Donc, on embarque dans le bateau, puis on s'y
va progressivement.
On y va progressivement.
Le locataire qui va quitter, tu vas prendre le temps de stripper ou refaire le logement à ce moment-là. Tu vas avoir généré un petit peu d'équité qui va te permettre de faire les travaux.
Exactement.
Par la suite, ben, tu vas pouvoir le faire avec un autre locataire qui va quitter dans quelques années, puis de refaire cette formule-là. Puis le fait d'aller dans le conventionnel, comme tu dis, c'est une question de rapidité d'exécution. Est-ce qu'on peut se sortir rapidement de cette formule-là.
On peut bouger rapidement et versus du assuré, où est-ce que là, tu vas être vraiment plus, tu vas être jammé. Là, c'est comme,
sur des termes de 5 ans.
Des termes de 5 ans, oui.
Justement, par rapport au fait de bouger plus rapidement, qu'est-ce qu'on devrait regarder dans la proposition de financement au niveau du terme? On prend-tu un variable? On prend-tu un fixe un an? Qu'est-ce qui devrait être...
Moi, la fois, la décision entre le variable et le fixe, là, à ce moment-là, pour la plupart des gens qui vont s'acheter une maison, ça va être une notion de taux. Là, dans ce cas-ci, le variable fixe, c'est plus une notion de pénalité. Donc, lequel va me donner une moins grosse pénalité si je dois bouger plus rapidement? Ça devient plus une notion de juste comment ça coûte. Là. Ça devient vraiment les conditions. Puis, OK, l'un à 2,5, l'autre est à 3. Ben, lui à 3, je le prends parce que j'ai des meilleures conditions. Je peux bouger plus rapidement. Tu sais, à un moment donné.
C'est encore comment ça coûte. C'est juste pas qu'est-ce que ça coûte à chaque mois au niveau du taux d'intérêt, c'est qu'est-ce que ça coûte quand je vais me sortir.
Exactement.
Parce que ça va arriver dans mon planning.
Ça peut avoir des impacts considérable. Puis personnellement, on a eu une pénalité, nous, quand on a refinancé, puis dans notre stratégie de maison, puis c'est unifamilial seulement, ben pour moi, j'avais une pénalité qui était vraiment grande, mais qui valait la peine de payer parce qu'on avait une économie sur du long terme qui était vraiment plus pertinente aussi. Sauf que quand on est arrivé chez le notaire, boum! La surprise, la pénalité était le double de ce qui était prévu.
Okay.
On veut pas avoir ces histoires-là. Non. Par contre, on est capable de se débattre puis d'arriver à avoir la pénalité prévue. Mais c'est important de savoir ça. Puis c'est important de pouvoir le prévoir dans tes analyses aussi.
Ça, faut lire les contrats de financement.
Lire les contrats de financement. Puis, informez-vous vraiment, tu as un taux variable, taux fixe, la pénalité sera pas la même chose. Puis ça dépend encore le contexte économique de où est-ce que les taux sont en hausse ou sont en baisse.
Oui.
Parce qu'évidemment, le prêteur, lui, est là pour pas perdre d'argent, surtout pour des prêteurs qui vont revendre les prêts, donc ils vont titriser. Ben là, il y a comme l'intérêt qui est calculé, ben il faut qu'il soit payé là.
Il est prévu dans leur
rendement. Il est prévu dans leur rendement. Puis dans la vente qu'ils ont faite, exactement.
Ça se peut-tu justement que encore dans notre exemple de notre 6 logements de 600 000, finalement, ça pourrait être intéressant de l'acheter SCHL au départ, malgré qu'on ait une optimisation relativement rapide à faire. C'est une possibilité?
Ça peut être une possibilité parce que, dans le fond, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est quand même possible de venir ajouter des deuxièmes tranches. Mais là, il faut que tu sois capable de démontrer au prêteur et à l'assureur que tu as vraiment réinvesti dans ton immeuble. Donc, c'est possible de le faire. Et c'est là même que cette notion-là s'applique aussi quand tu achètes plus de la moyenne et haute densité. Donc, quand tu commences à monter dans des gros, gros blocs, ça devient intéressant d'aller mettre dès le départ un financement assuré. Évidemment, il faut que le bloc soit plein. Si tu achètes un bloc vide, ils voudront pas l'assurer. Mais tu sais, s'il est déjà plein, il est déjà stabilisé, puis que tu veux faire plus une optimisation moyen terme, donc un 3 ans, 5 ans. Donc, tu veux profiter du roulement organique de l'immeuble et que tu sais que tu vas réinvestir les excédents de trésorerie opérationnelle. Ben oui, c'est possible au bout de un an, deux ans, trois ans, t'es capable de démontrer que t'as réinvesti pis t'as vraiment créé la vraie valeur, là. Pis là, ici, la vraie valeur, c'est pas juste augmenter les loyers, là. C'est que t'es investi dans la structure de ton bâtiment.
C'est ça.
Eh bien, là, oui, c'est possible de venir rajouter une deuxième tranche. Toujours en perspective que les ratios financiers sont respectés.
C'est ça. Il faut que ça soit une optimisation assez intense, assez forte, parce que, justement, c'est quoi, tu dirais normalement la braquette ou à partir de où on peut dire, tu sais, ça va être intéressant justement d'aller chercher une deuxième tranche où je vais être reçu. Moi, j'ai un chiffre en
tête. Écoute, j'ai pas de règle du pouce, mais j'ai remarqué dans nos derniers projets qui valorisent beaucoup l'investissement en CAPEX. Donc, fenêtres, toiture, infrastructure, isolation, fondation, tu sais, tout ce qui est vraiment très bâtiment, là, structurel, ils vont beaucoup valoriser ça. Ils aiment voir que t'as tes skin in the game. Tu sais, c'est... Ils veulent voir que tu es investi dans le projet puis que tu n'es pas juste là pour spéculer sur de la valeur locative puis de l'augmentation de revenus. Tu investis vraiment.
Puis tu assures la pérennité du bâtiment. Tu sais, exactement. C'est vraiment sur la coquille et non juste de l'esthétique ou du maquillage ou des planchers ou des portes d'armoire. Là. Tu
ben
sais,
oui.
C'est sur le rough du bâtiment.
Puis c'est la nature de l'immobilier. C'est ça. C'est touchable, c'est tangible, c'est physique.
Fait que ça peut être intéressant finalement d'acheter SCHL malgré qu'on ait une optimisation rapide parce que. Bon, ça diminue la mise de fonds initiale,
ouais.
Mais il faut s'assurer de faire une optimisation suffisante pour aller chercher cette deuxième tranche-là.
Exactement, mais juste s'assurer que ça soit pas une optimisation agressive. Plus qu'on rentre dans une notion d'agressivité en termes d'optimisation, puis quand je parle ici d'agressivité, c'est rapidité, on strip, on sort, on vide. Là, clairement, un assureur voudra pas assurer le prêt. Là. Même le prêteur, il sera pas intéressé. Là.
Parce qu'ils vont être trop à risque aussi.
Ils vont être trop à risque, donc c'est là que le financement conventionnel devient intéressant.
Super, Kevin. Si on veut avoir plus d'informations sur KP Formation d'affaires.
KPMaffaires.com, on parle de long et en large de tous ces sujets-là. Et même dans nos ateliers mastermind en ligne avec les professionnels et la communauté, on parle souvent de ces sujets-là.
Vraiment cool. Merci, Kevin.
Merci.
Merci.
Bye-bye. Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
96.9.
Avertissement.
Cette émission a pour...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.